L'aventure invisible présentée au Théâtre Prospero s'inscrit dans une approche singulière du théâtre documentaire en croisant trois récits de vie extraordinaires. Alors, ces récits explorent la fluidité et les limites de l'identité. On a d'abord une neuroanatomiste ayant perdu sa mémoire après un AVC, un cinéaste queer en quête d'une photographe surréaliste oubliée et le premier homme à avoir subi une greffe totale du visage. Pour en discuter, donc, nous recevons l'artiste suédois, metteur en scène et auteur Marcus Lindin, et ainsi que sa collaboratrice de longue date, dramaturge et traductrice, Marianne Segal. Marianne, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Bonjour.
Bonjour. Je vais commencer par vous, Marcus. Comment ces trois trajectoires si différentes, on parle donc de la neuroanatomiste, la cinéaste et le patient à la greffe faciale, se sont-elles imposées et comment avez-vous vu le fil invisible qui relie le concept de l'identité?
Ben oui, c'était très récit assez différent, mais ils parlent de transformations assez spectaculaires autour de cette identité. Et ces trois différentes histoires que j'ai rencontrées en réalité, en fait, et que j'ai fait des interviews avec trois différentes personnes qui n'ont jamais été rencontrées en vraie vie, mais à travers cette pièce, ils se rencontrent sur le plateau pour la première fois. Et donc, une des personnages, par exemple, c'est le premier patient au monde qui a reçu une greffe totale de visage. Il s'appelle Jérôme Hamon. Il est parisien. Il a raconté son histoire, comment vivre avec un visage de quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est ça qui m'a bouleversé beaucoup au début et c'est ça qui a déclenché un peu le projet.
Marianne, vous utilisez la technique qu'on appelle du verbatim avec une oreillette. Comment cette approche, qui est quand même assez paradoxale, là, très technique, mais visant l'authenticité, comment sert-elle le propos de la pièce?
Ce système-là, en fait, c'est donc un système qui vient du documentaire et qui a été développé aussi en théâtre par une metteuse en scène anglaise dont je ne me souviens jamais le nom, Marcus.
Katie Blythe.
Voilà. Et Marcus, qui lui venait du théâtre documentaire et qui en fait c'était tout un rapport à la. En fait, c'est une pratique qui fait que quand on a la voix de la personne qui a témoigné en fait dans l'oreille et qu'on retranscrit en fait qu'on est passeur de sa parole. Maintenant, quand il s'agit de faire du théâtre et que on fictionnalise tout ça, en fait, c'était de réussir à travailler avec cette technique-là, donc avec l'authenticité de la parole, de la parole réelle, mais de la retravailler et de pouvoir travailler la langue comme une sorte de langue orale, mais qui soit finalement assez artificielle, puisqu'elle est... On travaille les scories dans la langue. Vous voyez comment je cherche mes mots là, par exemple, en ce moment. C'est comment retranscrire ça sans que ça paraisse naturaliste, mais que ce soit comme une langue à la fois très simple, mais qui porte l'oralité des gens.
Ça semble être une technique assez difficile, mais bon, j'imagine quand on est un acteur, on le fait bien, mais ça doit quand même avoir quelques défis, hein?
Oui, alors après, en fait, c'est ce qui est toujours un petit peu plus compliqué, c'est pour les acteurs professionnels plus que pour les non-acteurs. Et nous, on travaille avec des gens qui sont pas forcément dans le jeu n'est pas forcément la profession. Et c'est vrai que c'est en fait, il y a une sorte de lâcher prise à avoir. En fait, on entend une voix et on doit répéter, mais tout en restant soi-même d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être soi-même, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de... Il n'y a pas à chercher à interpréter, en fait.
D'accord. Marcus, les récits impliquent souvent ce qu'on appelle une transformation radicale, que ce soit du corps ou de la perception de soi. Alors, quel rôle le corps, le visage, la mémoire, ce qu'on appelle là, ces ancrages traditionnels du moi, quand ils sont altérés ou empruntés ou perdus, surtout comme dans le cas de la neuroanatomiste là, ou l'homme au visage greffé?
Mais je crois que c'est l'identité est toujours très, très liée à notre corps et c'est ça qui parle aussi, notamment les deux récits-là, parce que Bien sûr, notre sentiment d'être quelqu'un spécifique en soi, en base de nous-mêmes, c'est vraiment lié de notre apparence, notre corps. Et si ça pas. En fait, tous les trois différents récits, ils questionnent un peu cette idée de noix en base identitaire, noyau en base identitaire, et propose plutôt que l'identité peut être quelque chose plutôt. Flexible, un peu plus flottante, en vrai dit. Parce que si on a, par exemple, dans ce cas des patients de greffe, là, si on a traversé une vie avec trois différents visages, qui est le cas pour lui, parce qu'il a reçu deux greffes de visage, donc il est dans son troisième visage, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en termes d'identité? Est-ce qu'il est toujours la même personne ou pas? Qu'est-ce que de devenir après une opération comme ça? Donc, les pièces questionnent vraiment ça.
Dans le cas de la neuroanatomiste, elle a perdu la mémoire. Hein, elle doit se reconstruire. Ça aussi, c'est un grand changement d'identité, j'imagine.
Ouais, alors là, c'est en fait ce qui se passe chez elle, c'est un peu l'inverse de chez le premier greffé, puisque elles sont. On va dire son apparence est restée la même, mais elle a complètement toute son identité et partie toute sa mémoire s'est effacée. Donc elle a à reconstruire en fait. Alors elle tente de reconstruire qui elle était, puis se rend compte de l'absurdité de ça aussi, parce que pourquoi reconstruire une personne qu'on était si on n'est plus comme ça, enfin, si on ne se reconnaît plus en fait dans. Et puis qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Donc voilà, c'est ces questionnements en fait, et puis ces personnages discutent chacun de leur point de vue, donc à travers un prisme particulier de ce rapport à l'identité et aux identités en fait.
Et puis j'aimerais qu'on parle aussi de Claude Cahun, dont la cinéaste queer cherche à raviver la mémoire. Ça aussi, c'est une autre démarche identitaire. Comment ça s'inscrit dans tout ça?
Oui, mais ça, c'est en fait le vrai début de tout ce projet de l'aventure invisible, parce que le titre, l'aventure invisible, en fait, ça vient d'une de ses poèmes, parce que Claude Cahun, elle était un photographe, mais elle était aussi un écrivaine et surréaliste de la année 20-30 en France, un peu oubliée, malheureusement, mais elle était redécouverte récemment avec des photos qu'elle a fait vraiment avant son temps. Elles sont très, très queer, androgyne. Elle fait de autoportraits d'elle-même, mais habillée comme un homme, etc. Donc, on traverse cette histoire à travers une artiste londonienne que j'ai interviewée, qui a dédié presque toute sa carrière à reconstruire les photos de Claude Cahun. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu en manière d'explorer l'identité à travers ce personnage de Claude Cahun, mais aussi le vrai personnage de cet artiste qui parle aussi de non-binarité, de son propre identité entre les deux genres.
Tous les deux, lorsque j'ai lu sur vous, vous parlez que vous dites que votre démarche, votre travail n'est jamais une démarche de voyeur ou de voyeurisme. C'est une démarche de théâtre documentaire. Ça soulève quand même des questions éthiques. Comment on s'assure, quand on fait ce travail-là, de garder une certaine bienveillance puis une distance respectueuse dans le traitement des histoires?
Moi, je crois que la manière qu'on fait ça, parce que c'est vrai qu'on traite vraiment des histoires qui viennent de réalités assez spectaculaires, mais je crois qu'on essaie d'éviter le voyeurisme par rapport au rapport au dispositif elle-même, parce que on accueille l'audience, le public, et dans un dispositif pas frontal, mais circulaire. Donc, tu es assis très, très proche, à côté même de performeurs et performeuses. Et donc, dans une situation théâtrale sans plateau, en fait. Donc, tu écoutes juste le dialogue et dans une proximité très intimiste. Ça veut dire que c'est vraiment pas de dramatique. On met pas de sujet en face d'un public. C'est vraiment, tu es. On intègre les histoires avec le public dans un rapport intimiste.
Alors justement,
Et le public.
oui,
Pardon, non,
allez-y,
je voulais
Marianne,
dire,
oui.
et c'est vrai que le public est toujours, en fait, quand on entend, on écoute ces histoires, le public est vraiment fait partie de la scénographie, en fait, puisque la lumière est aussi sur le public et que le public est aussi acteur de ça, puisque tout le monde se voit et tout le monde se regarde, en fait.
Moi, j'ai l'impression
Même si on ne
c'est
demande pas d'interaction,
oui,
donc
il n'y a
fais
pas
pas
de...
peur.
Y a pas d'interaction, mais j'ai l'impression que les spectateurs, ce que j'ai vu par les photos, parce que je n'ai pas vu la pièce encore, elle commence ce soir, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme un agora, les gens, les non-comédiens qui sont là sont assis à même le public, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, en fait. Ils sont entourés des spectateurs. Tout le monde, en fait, c'est donc une scénographie circulaire à trois niveaux, en fait. Et donc, tout le monde est ensemble. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a ça, que le fait que le public soit extrêmement présent, extrêmement actif dans tout le tout durant toute cette ce spectacle, on va dire. Mais aussi que finalement, les questions, elles sont non pas posées par quelqu'un qui n'aurait pas vécu les choses, mais aussi par elles se posent entre eux, en fait. Chacun, comme ce que je disais tout à l'heure, chacun de son point de vue, ayant lui-même été traversé par cette question intimement. Donc, en fait, les questions sont posées par quelqu'un qui lui-même vit d'une certaine manière ses interrogations existentielles, on va dire, sur les questions d'identité.
J'ai un petit temps pour une dernière petite question. Cette pièce a été jouée ailleurs. Cette fois-ci, vous la jouez à Montréal. En quoi c'est différent ici à Montréal que ça l'était ailleurs? Ou si ça l'est pas du tout, là?
Mais c'est vrai que c'est une récréation d'un spectacle qu'on a déjà fait en Europe, surtout en France, mais des autres pays aussi européens. Mais ici, on a reconstruit la scénographie et on a fait, mais on a fait tout un travail de casting pour trouver une distribution québécoise, en fait. Et ça a été vraiment une vraie découverte pour nous parce qu'on a découvert une distribution incroyable. Et donc, on est même plus fiers, je crois, maintenant de cette production-là qu'en France. Et on a très hâte de présenter ça au public qui m'aurait allé.
Et puis, on a aussi travaillé avec un théâtre, le Théâtre Prospero, avec des gens incroyables aussi. La scéno est vraiment très, très belle. Donc, une recréée ici. Et ils ont été très, très proches, ils le sont toujours. Et c'est vrai qu'on a pu très à l'écoute, en fait, de ce qu'on voulait, en fait, de ce que non, c'est une nouvelle aventure, en fait.
Bien, on a hâte de voir ça. L'aventure invisible est présentée au Théâtre Prospero à compter de ce soir jusqu'au 1er novembre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de présentations qui étaient déjà salle comble. Alors, courriez-vous,
Ah, c'est
faites vite
génial.
pour être capable d'avoir vos billets. Merci beaucoup, Marcus Linden et Marianne Segal. Et bien, on se voit cette semaine au théâtre.
Merci.